de la controverse qu'il y a entre Korah, qui est un des principaux chefs de la tribu de Lévi, et de Moïse. Et Korah avait déclenché une conspiration contre Moïse en faisant alliance avec une autre querelle, une autre controverse qui venait des chefs de la tribu de Réhouven. Et les chefs de la tribu de Réhouven, qui sont cités au début de la paracha, contestaient Moïse sur le pouvoir politique. Sur le principe suivant, c'est que par droit d'héritage, le pouvoir politique devrait appartenir à la tribu de la famille aînée de Jacob, Réhouven étant le premier-né. Et Korah, lui, va cristalliser ses propres motivations de controverse. Je cherche un mot qui m'échappe en français. L'accusation qu'il y a là, c'est l'accusation de favoriser quelqu'un de sa famille pour le pouvoir. Ça s'appelle du népotisme, je crois. Oui, c'est ça. Alors, nous avons là quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les sociétés. Dans les sociétés, au moment de la prise de pouvoir, il y a le risque pour le chef du pouvoir politique, ce risque de népotisme. Alors, c'est effectivement cette contestation, cette accusation que Korah va formuler en faisant alliance avec cette marloquette venant des chefs politiques potentiels du peuple. La tribu de Lévi, elle représente le pouvoir sacerdotal. Et par conséquent, lui, Korah, qui est la tribu de Lévi, va focaliser sa controverse contre Aaron, le frère de Moïse, que Moïse avait désigné comme grand prêtre. Voilà le vrai cas du mondial français. On revient en anglais. On dit le terrain. C'est plus français.
Le contexte.
Le contexte, si vous voulez. Non, c'est pas le contexte, mais en fait, ça fait, c'est le même sens. Hein? Oui, mais il n'y a pas un mot en français. Pour traduire Réka.
L'arrière-plan.
L'arrière-plan, pas exactement ça. La base, mais... Bref, de cette affaire. Et on va le lire tout de suite sur ce premier point, dans le premier verset. Vaïkar Korah Benissar Benka Ben Lévi, Korah qui est fils de Issachar, fils qui est lui-même fils de Kéa, descendant de Lévi, vous voyez, l'identité de Korah est reliée à Lévi. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est familier déjà cette idée, il faudrait le préciser du point de vue des principes de les droits par héritage. Mais je voudrais avancer plus rapidement. Disons, on retient simplement cette familiarité que Réhouven, étant la tribu aînée, réclame le pouvoir politique, le pouvoir du roi, alors que à Lévi appartient le pouvoir sacerdotal. Pourquoi c'est le troisième fils qui sera confié le pouvoir sacerdotal? Pourquoi c'est l'aîné à qui confié le pouvoir politique? C'est un problème qui mérite d'être étudié, je vous le signale, mais on va prendre ça comme postulat. Qu'est-ce que fait Shimon entre les deux? Il y a une sorte de scotomisation oui. de Shimon. C'est un terme de psychanalyse. Ça veut dire lorsque on cache quelque chose, on refoule au point que c'est complètement comme si ça n'existait pas. Alors on dit en psychiatrie, c'est scotomisé. Vous êtes familier les patients des psychiatres, non? C'est le psychiatre qui est patient. Non? Bref, alors j'aurai un sujet. L'identité de Korah est rattachée donc très explicitement par le verset. On veut nous rappeler que la force de sa prétention vient que c'est un héritier de Lévi de manière essentielle. Nous savons d'autre part, par beaucoup d'indications, que c'est un des grands attributs de Lévi. Je dis tout de suite en anticipant ce que nous allons voir tout à l'heure, après Moïse, ça aurait pu être Lévi, Korah, qui dans la tribu de Lévi aurait pu être le Moïse s'il n'y avait pas eu Moïse. C'est un très grand. Donc on va se demander pourquoi la Torah tient à nous raconter tout ça en détail. Ce point que je viens de signaler, je vous l'ai dit dans la paracha en français, vous le reverrez. pourquoi la généalogie de Korach dans le verset s'arrête à Lévi, ça ne va pas jusqu'à Jacob. Nous allons voir tout assez rapidement un verset dans Divrei Yamim où la généalogie de Korach remonte jusqu'à Jacob, nommé Israël. Mais ici, attendez une minute que je reprenne le souffle. C'est la chaleur, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est. La. Rachid cite à Midrash que Jacob a prié pour que son nom ne soit pas mentionné lorsque la Torah va rappeler cette généalogie de Korach, sa dignité de Lévite. Parce qu'il va s'agir de la faute la plus grave en Israël, celle qui mène la brisure de l'unité de la nation, du peuple, et qui correspond au niveau spirituel à porter atteinte à l'unité du nom de Dieu. Parmi toutes les fautes possibles dans la société d'Israël, la faute de ce que représente la faute de Korach, la faute du contestataire de Moïse, une des raisons de pouvoir, des raisons théoriques et de comment dire, de compétences, de pouvoir s'opposer à Moïse, se mesurer à Moïse, et la faute la plus grave, je la formulerai de cette manière que j'ai mis dans le texte, c'est la faute du Tamid Chacham qui est en contestation avec la tradition. Et dans le Talmud, il y a une expression que je vous explique pour indiquer cela, c'est le Zaken Mamre. Je ne sais pas, j'ai oublié, quelqu'un peut me demander s'il y a de la craie. Je vais avoir besoin de craie, on n'est pas là. Quelqu'un peut demander au bureau. Le zaken, c'est le mot dans le Talmud se sert pour dire un sage, un haram, quelqu'un qui pourrait être dayan, quelqu'un qui peut être à la tête du tribunal rabbinique, qui doit interpréter la Torah de Moïse. Mais Mamré, qui est rebelle, a l'autorité de la Torah de Moïse elle-même. Voilà, et c'est ça que nous allons voir dans les sources talmudiques qui vont expliquer la gravité du problème de Korach. C'est ça ce que nous allons voir à propos de Korach lui-même. Tu veux ici ou là? Non, toi tu veux ici.
Je sais pas comment.
Je vais faire un peu demander à Rabin. Tu es ici, Zach et Mamré.
J'écris visible.
Tu sais pas ici ou
là? J'écris mes visibles.
Je ne demande pas de lire, je demande d'écrire. Oui. Bon, Zaken Mamré. Retenez l'expression. Et alors donc, Rachid cite ce premier midrash que Jacob a prié pour que son nom ne soit pas relié au récit de la marloquette de Korach contre Moïse. Je ne voudrais pas trop prendre de temps pour cela, ça devrait s'enseigner de manière un peu plus systématique, de faire découvrir que Korach, par les textes, que Korach, qui est connu comme étant le méchant de l'antagonisme à Moïse, est en réalité un très grand de la Torah, de la tribu de Lévi. Je dirais de cette manière, si Moïse n'était pas là, ça aurait été Korach qui aurait pu être au niveau de Moïse. C'est clair l'idée? D'où la gravité de sa faute. Si quelqu'un de petit fait semblant de s'opposer à un grand, c'est ridicule. Mais si quelqu'un d'un peu plus grand, d'un peu moins grand, s'oppose au grand, c'est grave. Parce que, je ne sais pas comment dire, mais vous comprenez l'idée, parce qu'il y a de quoi. Ça renforce la gravité de... Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, le seul qui n'avait pas le droit d'entrer dans l'ombre de controverse avec Moïse, c'était précisément Korach. Parce que ça aurait été un Moïse possible. Est-ce que c'est bien clair? Alors, on va se poser la question, ça va être l'objet du cours, je vous l'ai expliqué en introduction. Pourquoi la Torah tient à nous enseigner de manière tellement explicite cette situation dans la société d'Israël, l'antagoniste à Moïse, et comment elle nous enseigne, comment il est possible cela, qu'un grand en Israël, à peine un peu moins grand que Moïse, tombe dans une telle faute. Voilà, vous avez compris le sujet. C'est un problème de situation que l'on rencontre dans l'histoire d'Israël depuis l'origine, comme vous voyez. Et je vous citerai une source talmudique qui va mettre en évidence les attendus de la possibilité de ce type de controverse et ce qu'elle signifie. Mais ce que je veux mettre en évidence tout de suite, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas seulement des cas spectaculaires dans l'histoire d'Israël, comme par exemple Korach, mais que c'est permanent dans le développement de l'histoire de la société d'Israël. À partir du moment où une révélation est confiée par quelqu'un, grâce à quelqu'un qui a été Moïse, sans Moïse, la Torah n'aurait pas été révélée. Et à partir du moment où la Torah est révélée, elle appartient au peuple. Et par conséquent, sa tâche, ce risque de ce que, dans le peuple, des compétences analogues à celles de Moïse, puisqu'il s'agit du peuple d'Israël, se dévoilent, et il y a ce risque de la compétition, c'est un mot que j'ai cherché, compétition, entre un disciple du grand maître et le grand maître lui-même. Et le problème entre Moïse et Korach, il faut le dire dans l'ordre en hébreu, entre Korach et Moïse, c'est celui qui conteste, on cite d'abord dans une contestation. Non, c'est l'inverse. Mahloket ben Hillel et Shammai. Oui, c'est ça. C'est Hillel qui est un Mahloket avec Shammai. Shammai est plus ancien que Hillel. Donc la Mahloket de Korach contre Moïse vient des conditions mêmes, des attendus de la Torah révélée par Moïse. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer un peu plus cela. Moïse a réussi lorsque on peut se passer de lui. Et par conséquent, il y a ce risque que précisément, puisque sa fonction, c'est d'élever Israël à sa hauteur, c'est que Israël s'élevant à sa hauteur, c'est Korach qui arrive le plus haut, profite de cela, que maître Moïse entre parenthèses. C'est ce qui se passe là. Ça s'appelle, dans la littérature talmudique, cette faute du Talmud Chacham, Zaken Mamre, ça s'appelle être Moré Halacha Lifne Rabo. Moré Halacha Lifne Rabo, c'est-à-dire prendre la parole sur un problème de Halacha devant son maître. Son maître étant présent, prendre le. Ça dépasse l'impolitesse. D'une manière générale, en point 2, dans la civilité du Derech de la Torah et du Talmud, on ne parle pas devant son père, on ne parle pas devant son maître, sauf si on a reçu l'autorisation, si on a reçu l'ordre de le faire. Mais il y a une limite encore beaucoup plus grande, c'est quand un problème de compréhension de la Torah se pose, qu'un élève se permette de dire son avis en présence de son maître. Ça s'appelle « Moré halakha lifne rabo » et, selon la législation talmudique, la peine, c'est « chayav mita », passible de mort. Mais jusqu'où ça va? Vous savez à quel niveau est la morale talmudique? On est bien loin de tout ça, de ce niveau de dignité. Parce que ce qui est en question, dans ce problème de la contestation du Talmud Chacham, c'est la révélation elle-même. Ça veut dire que si on contredit celui par qui la révélation a passé, ça veut dire qu'on contredit la révélation elle-même, qu'on nie la révélation elle-même. C'est la grande difficulté de ce problème. Ça veut dire, est-ce que Korach ne sait pas que lorsque Moïse enseigne, c'est Dieu qui lui transmet cet enseignement? C'est le cas particulier de Moïse. Comment se permet-il de contester Moïse? Vous avez compris la gravité du problème. Alors, si on descend à tous les niveaux dans l'échelle de la société, ça se passe à tous les niveaux. Le Zaken Mamré, c'est celui qui pourrait être le Moïse du temps, mais qui est en controverse. Je ne prends pas le mot d'hérésie, ça renvoie dans notre catégorie, en controverse avec l'autorité de la tradition. Et il est Chayav Mita, parce que ça équivaut au fait qu'il nie que la Torah est révélée. Est-ce que c'est bien clair? Attends une minute, non, je ne peux pas penser à autre chose. C'est déjà autre chose. Bon, ça c'est au début de cette histoire. Je vous citerai un texte du Talmud qui explique comment on peut comprendre ce qui arrive à Korach. Mais la difficulté, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est que dès le début du récit, on se demande, mais qu'est-ce qui pousse Korach à s'opposer à Moïse, alors qu'il sait que ce que Moïse enseigne, c'est Dieu qui le dit à lui-même. Je vais vous donner un des exemples de ce que le Midrash, le Talmud aussi en parle, mais c'est surtout le Midrash, donne comme exemple les contestations de Korach contre Moïse. Alors ça se réfère, je m'en voudrais de lire vous-même parce que c'est un passage très connu, au passage immédiatement précédent dans la paracha de Shlach Lecha, et qu'on lit dans le Kriyat Shema. C'est la paracha de Tzitzit. Effectivement, après la Torah, après nous avoir donné la paracha de Tzitzit, nous parle de sa contestation de Korach. En fait, c'est un des exemples que je cite du Midrash, il y en a d'autres, mais qui se relie toujours au même principe. C'est dans un livre qui s'appelle Be'er Agola, que le Maharal a bien expliqué l'explication que je vais vous transmettre sur ce Midrash. Moïse transmet le fait qu'il faut se mettre des tzitzites, et dans les tzitzites, il doit y avoir un fil bleu. Alors, Korach pose la question de la manière suivante. Si le talet est tout entier bleu, est-ce qu'il lui faut aussi un fil bleu? Vous avez compris? Le talet est blanc, et dans le talet, le tzitzit du talet, il faut un fil bleu. On a perdu la couleur bleue, telle qu'elle était connue encore au temps du Beit Sheni. Certaines autorités, surtout chez les Chassidim, dans le temps contemporain, pensent l'avoir retrouvé. C'est pourquoi vous pouvez voir peut-être au Kotel, certains Chassidim qui ont des talettes avec un fil bleu. La chilazon. La chilazon, c'est un escargot, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est ça. Qui donne cette couleur bleue de trélette. Et alors, quel est le sens de cette contestation de Korach? Si Dieu a dit, dans le talet blanc, il faut un fil bleu, et je vous disais tout à l'heure comment le Talmud explique le fait qu'il faut un fil bleu dans le talet blanc, pourquoi Korach conteste en disant que si tout le talet est bleu, est-ce qu'il faut aussi ajouter un fil bleu? C'est la contestation contre Moïse. Nous allons voir tout de suite dans la formule du verset. Et donc je suis au début du récit. Il y a une contestation de Korach, mais qui s'allie au chef de la tribu de Reuben. Les Datan Verbiram, Ben Eliyah, Veom, Ben Pelé, Ben Reuben. Ceux-là sont les fils de Reuben. Verset 2. Yaakoum ou Lifne Moshe, et ils se dressèrent contre Moïse, Vanachim et Bené Israël, accompagnés de personnalités. Anachim, ce n'est pas des hommes stam, c'est des hommes vraiment, des personnalités, des hommes importants. Vanachim et Bené Israël, Khamishim ou Mataïm, donc 250 chefs du parti de la rébellion. Du Lévi, il ne s'appelle pas David celui-là, donc vous voyez ce qui se passe. Et c'est une révolte grave. Nessi et Aïda, des princes de l'assemblée, Kéri et Moé, ceux que l'on convoque lorsque l'assemblée est convoquée, Anchechem, des gens de renom. Ça veut dire, tout de suite, la Torah nous avertit, c'est un très haut niveau qui se passe. Vaïkaloa, Moshe et Aaron, ils se groupèrent contre Moïse et Aaron, Vaïngoualéem, et ils leur dirent, Rablachem, c'est trop pour vous, Kikola et Dakula Kedoshim. Car toute l'assemblée, ils sont tous saints, ou Tocham Hashem. Et en leur sein, il y a Hashem. Ou Madou, Atik Maseou, Alkeal Hashem. Et pourquoi l'Etnas, en français ça se dit pourquoi? Le français m'échappe complètement. Pourquoi
S'ériger.
Oui, érigez-vous en assis, si vous voulez. Bon, vous voyez quel est le verset que je voulais citer. toute l'assemblée est sainte. Tout le talet est bleu. Pourquoi un fil bleu, toi Moïse? B, l'explication du Maharal. Un deuxième exemple, si dans, il est rattaché à la même paracha de Titi, si dans une maison, il y a dans une chambre, la chambre est pleine de sifrei Torah, est-ce qu'il faut mettre une mezouza? Alors ça veut dire, c'est la même chose. Si toute la collectivité a cette sainteté propre à Israël, pourquoi toi Moïse et toi Aaron, vous installez-vous comme chef d'Israël? Vous voyez comment est l'explication du Maharal. Si tout le talet est bleu, pourquoi faudrait-il ajouter aussi un fil bleu? Alors la démagogie qui apparaît est très claire. Je le dis rapidement parce que vous pourrez le lire dans le texte. Je dirai en réalité, il va se dévoiler qu'il y a des motifs personnels de cette contestation contre Moïse, mais la contestation se masque d'une argumentation collective. C'est apparemment le bien de la collectivité que l'on réclame, mais en réalité c'est son intérêt personnel. Vous voyez, on a souvent l'expérience de ça dans la société. C'est exactement la définition du démagogue, qui prétend représenter les intérêts du peuple pour détrôner le roi, et lorsqu'il se met à sa place, il fait pire que le roi, qui était accusé. Vous avez compris un peu l'idée. Eh bien, le Talmud va quand même réhabiliter. Alors, je vous fais confiance pour restituer le sens exact des mots que je n'arrive pas à trouver. Le Talmud va essayer de faire comprendre la vraisemblance d'une telle querelle. Quels pourraient être les arguments de Korach en bonne part? Et quoi qu'il en soit, nous avons donc, la manière dont j'ai introduit l'étude, un deuxième verset, ça nous allons le lire ensemble avec Rachid, où malgré tout, à la fin des temps, le nom de Korach sera rattaché au nom de Jacob par le nom d'Israël. C'est-à-dire que finalement, cette querelle prendra fin et Korach sera réhabilité. Je ne voudrais pas que ce soit confus, ce que je suis en train de vous expliquer. Tant que ce n'est pas le cas, tant que Korach n'a pas mis fin à sa querelle, c'est la faute la plus grande. Mais ce n'est pas la faute de n'importe qui. Et lorsqu'on aura bien compris comment cela pourrait être restauré, alors la personnalité de Korach reprendra sa filiation jusqu'à Jacob, Israël. Alors on va lire ça dans Rashi, et après on commencera l'étude. Une première sourde dans le Talmud, j'espère que on en finira assez rapidement. Et à ce moment-là, je prendrai une deuxième source dans le Zohar, dans la Kabbalah, pour rattacher le problème de cette situation de lutte, conflit, tension entre Moïse et l'autre que Moïse, Moïse et l'autrui de Moïse, dans ce cas c'est Korach, dans la situation historique, à la situation générale de la relation d'autrui à autrui qui commence avec Caïn et Abel. Dans quel cas particulier de la relation d'autrui à autrui on se trouve au niveau de Moshe et Korach. Et pour ça, je serai mené à vous donner une introduction sur les différents niveaux de la personnalité humaine d'après la Kabbalah. C'est une étude que les anciens ont dû avoir il y a quelques années, mais je reprendrai. Donc, si quand même, je vais aller très vite parce qu'on a beaucoup de choses à voir, comme vous voyez, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, moi, vous m'interrogez tout de suite, mais pas au milieu d'une phrase. Parce que si vous me mettez au milieu d'une phrase, je suis complètement ailleurs dans l'étude. C'est clair, oui. Alors, vous allez prendre Rashi sur le premier verset. Et on va le lire jusqu'au moment où on arrivera au deuxième. L'indication que je vous donne. Voilà. Prenez Rashi. Ben Yitzhak, Ben Kehat, Ben Lévi. À peu près à la quatrième ligne de Rashi. À peu près à la quatrième ligne. Hein, la quatrième ligne. C'est la cinquième.
Enfin, la cinquième.
Oui. Alors, Ben Kehat, Ben Issa, Ben Kehat, Ben Levi. Velo Iskir Ben Yaakov. Et il n'a pas mentionné fils de Jacob. Je lui ai dit car Jacob a prié pour sa propre personne. Chez Loïs, Isacher Shemo, Al-Mahortam, en demandant que son nom ne soit pas mentionné sur leur querelle, sur leur controverse, chez Nehema, d'après la Midrash qui est sur le verset dans Bereshit, chapitre 49, ou Vikalam al-Dehad Kevudi. Le verset tout entier concerne les bénédictions que Jacob donne à ses enfants. Lorsqu'il parle de Shimon et Lévi, il dit Besodam al-Tabo Nafshi. Bikhalam al-Tehad Kevodi, dans leur complot secret que mon âme ne soit pas engagée et que dans leur rassemblement, dans leur, comment dire, le fait de se rassembler contre quelque chose, ça se dit dans leur
ligue,
oui, al-Tehad Kevodi, que mon honneur ne réside pas. Et le Midrash dit, Vikala Matehat Kevodi, il s'agit de la controverse de Korach. Vech Aniskar Shemon Shel Korach, et où est mentionné le nom de Korach, Ve Ityahasam Aladuchan, dans lorsque ils sont, les Lévites sont reliés au Duchan, le Duchan c'est le. C'est bon, on m'échappe complètement. Devant le Echao, la marche qu'il y a, où se mettent les Kohanim pour dire la Bechat Kohanim, quoi, on appelle ça en français. Parvis, oui.
Pourquoi
le Parvis? J'ai oublié comment ça se dit.
Oui,
l'estrade qu'il y a devant le Echao. Alors, c'est dans les Divrei Hayamim, les chroniques, chez Nehema, Divrei Hayamim, livre 1. Chapitre 6. Korach est appelé à propos de son fils Abiasaph, qui fait partie des Lévites qui chantent sur le Duchan, Ben Korach, Ben Issa, Ben Kehat, Ben Levi, Ben Israël. Ça veut dire qu'il y a déjà une indication de l'Andrashi, qu'à la fin des temps, du vrai Amim, c'est la fin de la Bible, qu'à la fin des temps, Korach sera réhabilité et rattaché à Israël. Bon, alors oubliez toute cette introduction, je reviens à l'essentiel du problème que nous allons voir maintenant avec la citation du Talmud. De quoi s'agit-il dans cette controverse? Alors là vous allez retrouver l'expression de Zaken Mamre et de Moré Alakha Lifne Rabo que j'ai expliqué dans l'introduction. En fait, si on comprend bien l'intention de la Torah, son projet initial pour la société d'Israël, d'après le verset qui définit le projet historique d'Israël dans l'humanité, qui est Vatem Tiyuli Mamreche Kohanim Begoy Kadosh, je vais traduire, mais il s'agit d'une société sans hiérarchie. C'est une société d'individus qui sont chacun d'entre eux, qui devraient être chacun d'entre eux capables d'être les prêtres des nations. Je traduis le verset. Vatem Tiyuli Mamreche Kohanim, un royaume de prêtres. Donc, un royaume de prêtres, et voilà que Moïse leur institue que ce royaume de prêtres doit lui-même avoir des prêtres. Mais d'où vient la racine de cette contestation de Korach dans sa démagogie même. Les Goy Kadosh est une nation sainte. Et une nation sainte, et voilà que à cette nation sainte, Moïse institue des rois. Enfin, un pouvoir civil, une royauté. Dans la génération de la sortie d'Égypte, c'est Moïse lui-même qui a le pouvoir royal et il donne à Aaron, son frère, le pouvoir sacerdotal. Vous voyez d'où vient cette contestation. Ça veut dire, Korach se base sur l'enseignement de Moïse lui-même pour motiver sa querelle démagogique. Tiens, je commence à pouvoir parler. Vous avez remarqué ça? Probablement quelqu'un a dû sortir. Aucun rapport. Eh bien, dans tous les cas, c'est normal. Ça m'arrive. Eh bien, quoi qu'il en soit, on voit déjà la racine du problème. C'est en se basant sur l'enseignement de Moïse lui-même que Korach prend la force de son argumentation. Ça veut dire, cet argument est imparable, ce qu'il dit est vrai. Donc, je vous cite un deuxième verset. « Ve'asoli migdash, ve'shachanti betocham » C'est ce que dit notre verset que j'ai cité tout à l'heure, l'argumentation de Korach. « Ki'kola aida kulam kedoshim u'tocham Hashem » C'est ce que Moïse lui-même enseignait. Israël me feront un sanctuaire, ve'asoli migdash, le Shachanti Betocham, je résiderai parmi eux. Alors, qu'est-ce que dit Korach ? Eh bien, nous sommes le sanctuaire. Toute la Haïda est sainte. Betocham Hashem. Mais c'est imparable. Ça veut dire que la force de l'argumentation théorique, formelle de Korach vient d'enseignement de Moïse lui-même. Alors, où est la difficulté ? Je voudrais vous citer, ça on a étudié à propos de la paracha de Trouma. Je voudrais vous citer un enseignement du Rabbi Tzraïm, si je me souviens bien, qui montre bien que c'est la société d'Israël qui est son Migdash. Parce que le verset dit, ils me feront un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Et le Midrash dit, Betocho lo ne'emar et la Betocham. Ça n'est pas dit dans le Migdash, mais Betocham en eux qui ont fait le Migdash. C'est-à-dire, si la société d'Israël est capable d'avoir un sanctuaire, c'est dans la société d'Israël qu'est le sanctuaire. Disons, c'est dans la société d'Israël que la Shrina réside. Pour expliquer un peu plus, je vous dirai comment le Rav Israël l'a expliqué. Si on prend le mot de Mekdash, on voit que ce sont les initiales des mots qui donnent les différentes fonctions de souveraineté en Israël. Le même, c'est le Melech, le pouvoir civil. Kouf, c'est Ma. Non, c'est Mishkan. Le mot de Mishkan. Mer, même, c'est Melech. Shin, c'est Shofet, le pouvoir législatif, le juge. Kaf, c'est Kohen, le pouvoir sacerdotal, le prêtre. Et Nun, c'est Navi, le pouvoir prophétique, le prophète. Alors les initiales de ces quatre mots font le mot de Mishkan. Mishkan. Donc le Mishkan de la résidence de la Shrina, c'est la société d'Israël. Et la Shrina résidait en Israël pendant tout le temps biblique. Et lorsque le Mikdash est détruit, la Shrina n'avait plus d'appui de résidence, de lieu de résidence. Mais sa résidence, c'est la société d'Israël. Est-ce que c'est bien clair ? D'ailleurs, le Rav Kook, dans la suite de cette enseignement, nous a donné les éléments de compréhension. La restauration de ce Mishkan se fait dans l'ordre de même chez nous. Il y a d'abord la société qui est restaurée dans la souveraineté du pouvoir politique, c'est la Médina. Ensuite, le Sanhedrin, c'est le pouvoir juridique au nom de la Torah. Ensuite, le Mikdash, le Kohen. Et ensuite, la Nevoa est rendue à tout Israël. C'est dans cet ordre-là. Nous sommes dans le premier stade, c'est la Médina. Alors c'est le pouvoir du Melech qui se constitue. C'est bien le problème, comme vous le savez. Les autres pouvoirs sont en germe dans ce premier stade. Par exemple, aucun rapport entre de dignité, de dimension, de grandeur, entre ce que peut représenter le Rabbanut HaRashit et ce que peut représenter le Sanhedrin. Mais le Rabbanut HaRashit est le Rabbanut HaRashit du premier stade. Médina, c'est clair, c'est dit, hein ? De la même manière pour les autres pouvoirs. C'est-à-dire, ce qu'il nous enseignait, c'est que toutes les forces d'Israël doivent être sur ce même, et quand le même est Betikuno, alors on s'occupera du Shin, et on verra apparaître le Sanhedrin. C'est tout à fait autre chose que la Rabbanut HaRashit, qui elle est un Misran de la Médina. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est très rassurant, ça veut dire qu'il y a un ordre normal de la restauration du Mishkan qui a été détruit. Bien, je ferme cette parenthèse. Et alors, voilà donc quel est l'argument de Korach. C'est la Torah elle-même qui enseigne qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie en Israël. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וקדוש תוס ובתוכה לשם. Et voilà comment ils instituent des rois et des prêtres. Vous avez compris le... Alors, ça va très loin. Ça veut dire que Korach va argumenter en disant que Moïse a falsifié le message de la Torah lui-même. Vous voyez, je ne vous citerai pas de source où c'est formulé comme ça, mais je veux dire qu'on pourrait aller jusqu'à le formuler comme ça. Il ne met pas en question que Dieu a révélé la Torah, mais il met en question la manière dont Moïse l'institue. Est-ce que c'est clair? Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un projet a priori, et il y a la réalité de l'histoire très difficile qui doit mener à la réalisation de cet idéal. Effectivement, l'idéal, c'est une société anarchique dans le sens étymologique, anarchia, c'est-à-dire sans hiérarchie. Une société des hommes libres qui n'ont pas à avoir pour eux-mêmes de hiérarchie, puisque c'est eux qui sont censés être les rois et les prêtres des nations. Ça va jusque-là. Ça, c'est le projet a priori. Et je crois que si on le comprend profondément, il reste dans l'esprit juif une trace de cela très profonde. Mais il y a chez les juifs une tendance qui les mène à... c'est la faute de Korach d'ailleurs, lorsque cela échoue, mais qui les mène à s'assigner comme idéal cet idéal de la société anarchique. J'ai été frappé dans l'histoire des mouvements politiques en Europe de voir le rôle que les juifs, en tant que tels, dès leur sortie des ghettos, et chaque fois au moment de leur sortie des ghettos, ont dans ces mouvements de type anarchique. Et par exemple, lorsque les juifs ont été fascinés par le marxisme, ils préféraient en général être trotskistes que marxistes orthodoxes. Et puis, on en trouve beaucoup dans les mouvements anarchistes, pas seulement politiques, mais littéraires, artistiques, philosophiques. Cette espèce de tendance à cet idéal que la Torah assigne comme projet de l'identité d'Israël, dans le Chet Kohanim et Kadosh. Je crois que ça fait partie très profondément de la nature humaine, mais il y a, et la Torah nous le raconte à travers l'histoire de Korach, il y a une manière spécifiquement juive de vivre cela. En tout juif, il risque d'y avoir un Korach. Et d'où ça vient? Ça vient de ce que c'est ce que Moïse a dit comme projet pour la société d'Israël réussie. Je ne sais pas si c'est clair. Alors la faute de Korach, c'est de faire semblant de ne pas tenir compte du fait qu'entre-temps, ce n'est pas encore le cas, mais c'est un projet d'idéal. Et qu'entre-temps, pour arriver à atteindre ce niveau, il faut qu'il y ait en Israël même une hiérarchie, des politiques et sacerdotales. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais. Est-ce que c'est clair? C'est suffisant. Parce que ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu deux empêchements à ce projet d'emblée de Mamlechet Kohanim et Volkanosh. Un empêchement intérieur à Israël. Israël n'en est pas encore capable. La preuve, c'est la catastrophe de la faute du Vaudor. Tout de suite, après le Sinaï, catastrophe de la faute du Vaudor. Et par conséquent, dès ce moment-là, il est décrété, d'une certaine manière, que ce projet est repoussé à la fin des temps. Israël n'est encore pas capable d'être vraiment Mamlechet Kohanim et Volkanosh. La preuve, la faute du Vaudor. Bon, ceci doit s'étudier pour lui-même. Il y a un handicap dans l'histoire d'Israël dès le début. C'est l'introduction du Hélévab. Mais cette introduction du Hélévab elle-même doit être étudiée. Elle est nécessaire au projet de l'histoire d'Israël. Donc, dès l'origine, et normalement, l'histoire d'Israël part avec cet handicap qui l'empêche d'être d'emblée Mamlechet Kohanim et Volkanosh. C'est clair. Ça, c'est l'empêchement intérieur. Et un empêchement extérieur, c'est le refus des nations. C'est pourquoi les prophètes vont reprendre ce projet de la sortie d'Égypte comme l'idéal pour la fin des temps. En attendant, nous sommes en situation provisoire d'une société qui a besoin elle-même d'avoir ses propres hiérarchies, en attendant de rejoindre le niveau de Mamlechet. Ça y est, c'est clair? Ah oui, la démagogie de Korach. Dans le projet d'idéal, il a raison, c'est ce que Moïse a dit. Mais dans la réalité, il a tort, parce qu'il feint d'ignorer ce qui s'est passé et qu'il faut pour Israël une hiérarchie. Alors vous voyez, qu'est-ce qui se cache derrière? Si déjà il faut une hiérarchie, pourquoi pas moi? Tout simplement. Voilà, c'est clair, vous voyez comment fonctionne cette dynamique de la controverse de Korach. Donc, et bien nous allons voir comment le Talmud en parle. Le Talmud va l'enseigner à propos de la naissance de Samuel. Samuel est un descendant de Korach. Or, la naissance de Samuel est difficile. Ça se rattache au thème de la difficulté des enfants de la lignée messianique à partir de Sarah déjà. Ça, c'est un thème auquel je ne voudrais pas trop accorder de temps ce soir, mais qui mérite d'être pris. Il faut découvrir cela. Il y a quelque chose à expliquer dans l'histoire des mères d'Israël. Pourquoi les mères d'Israël sont stériles? Elles sont stériles, c'est pas le mot exact, puisqu'en fait, moi, je les vois enfanter. Mais je n'ai jamais trouvé en français un mot qui exprime ça, cette stérilité provisoire. Hein?
Temporaire.
J'ai pas entendu.
Temporaire.
Cette stérilité temporaire, oui. D'accord. Il n'y a pas de substantif. Je crois Talmud étudie cela. En particulier à propos de Sarah, il y a un mot que je vais employer qui indique le cas particulier d'une stérilité réelle, impossible à enfanter, et que pour Sarah, il y a eu vraiment un miracle, mais que le thème général qui va nous donner la clé de cet étonnement, Sarah est dans ce cas, Rivka est dans ce cas, Rachel est dans ce cas, on verra que la mère de Samuel est dans ce cas, Hana, c'est tant qu'il n'est pas évident que l'enfant attendu, c'est vraiment l'enfant qui doit naître, c'est Dieu qui empêche l'enfant. Ça veut dire que c'est la lignée par où passe l'engendrement messianique, où l'enfantement est difficile. Lorsque Ishmaël naît, tout de suite, la Torah nous dit la constitution de la nation d'Ishmaël en 12 tribus. Lorsque Esav naît, tout de suite, la Torah nous raconte la constitution de Esav, la nation d'Esav en 12 tribus. Mais pour la constitution de la nation d'Israël à partir de Jacob, c'est là que le texte se fait beaucoup plus fouillé. C'est difficile. C'est très difficile. Et ce n'est que, en fin de compte, que l'enfant naît. Ça commence avec Isaac et Sarah. Est-ce que c'est bien clair? Donc, je crois que toute notre histoire, le peuple juif, en tant qu'il est l'héritier d'Israël hébreu, notre histoire est comme ça. L'avènement d'un événement d'ordre messianique n'arrive toujours qu'en fin de compte. Parce que si jamais il y a anticipation, il y a échec. Et on fera mettre au monde une approximation de l'identité qui serait catastrophique, monstrueuse. Est-ce que c'est clair l'idée? J'ai appris cela, j'ai compris cela, enfin pour pouvoir le dire en français si vous voulez, dans le Talmud, par une indication qui dit que le Mashiach s'appelle Barnafli, le fils des avortés, Nefel d'un avorton. C'est-à-dire qu'il y a à travers le temps énormément d'avortements, d'identités messianiques non réussies, et en fin de compte, quand le Mashiach naît, il est le résultat de tous ces efforts qui ont avorté. Est-ce que c'est clair, l'idée? Bar Nafli. Bien, ça veut dire que il ne faut pas s'étonner. Nous avons vécu ça pendant les 2000 ans de l'exil, à partir de la destruction du deuxième temple. 2000 ans, c'est effroyablement long, d'une patience, d'espérance, de restauration de l'identité d'Israël. Et on a traversé ces 2000 ans d'espérance dans une invraisemblance totale que ça allait arriver.